Je suis en compagnie de Donatien Gros. Nous parlons, Donatien, de votre nouveau livre « Dans la bibliothèque de la vie » qui est paru chez Grasset dans la collection Figure. Première assertion qui me paraît fondamentale dans votre livre « Dans la bibliothèque de la vie », vous écrivez « Nous lisons davantage que toutes les générations qui ont précédé la nôtre ».
Merci Dominique, merci de m'accueillir. Oui, c'est une évidence. Nous lisons et nous écrivons davantage que toutes les générations qui nous ont précédées. Il y a des travaux d'historiens, des travaux de sociologie de la lecture qui montrent exactement ça. Et quand on regarde, ce qui est frappant, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, il y avait des individus qui écrivaient, mais l'écriture ne faisait pas partie de la culture collective. Il y a les travaux, par exemple, de Dominique Khalifa, de Philippe Artière, à ce sujet, montrent qu'on a commencé à écrire, et on a fait écrire, notamment les criminels, sur les travaux de Philippe Artière, beaucoup à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, quand nous lisons, nous lisons certes des livres, nous lisons des posts sur Facebook. Il y en a même comme mon ami Maël Renoir qui en ont fait un genre, c'est-à-dire qu'ils écrivent des textes sur leurs posts Facebook. On lit sur Twitter. Alejandro Jodorowsky, que je cite, a utilisé Twitter comme une sorte d'arme poétique. Et on lit même sur Instagram, parce qu'on sait très bien que les images sont associées à des textes. Et là, je ne parle que de lecture de texte. C'est-à-dire que l'effort que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de réfléchir à l'extension progressive de la lecture, puisqu'on sait très bien que quelqu'un qui va être un commissaire d'exposition va lire des œuvres, quelqu'un qui va être un directeur artistique va lire des images, et au fond, on peut se poser la question: que se passe-t-il si, alors que nous lisons sans cesse des textes, nous lisons des images, nous lisons des paysages, que se passe-t-il quand nous radicalisons cette question et que nous nous rendons compte que notre vie est passée au milieu d'une gigantesque bibliothèque qui est à la fois celle des livres mêmes, mais celle de toutes les formes métaphoriques de livres que l'on peut trouver dans le monde. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu proposer ici.
Vous écrivez, pour accompagner cette parole, « Nous ne commençons qu'à peine à nous en rendre compte. Le texte est à nouveau présent devant nous. » Et puis, il y a cette scie sur l'écriture, écrire collectivement. « Si la civilisation occidentale écrit depuis des millénaires, les sociétés de l'Occident n'ont commencé à écrire collectivement qu'il n'y a guère plus de 100 années, 150 ans à peine. »
Oui, parce que on sait très bien que l'État écrit, l'État produit des documents depuis des millénaires. On le sait pour l'Antiquité gréco-romaine, notamment pour l'Antiquité romaine que je connais un petit peu. Mais cette pratique de généralisation des écritures, de prolifération des écritures, est véritablement quelque chose de nouveau. Elle l'est d'abord parce que c'est la question de l'illettrisme. On sait très bien que dans l'Antiquité romaine, nous sommes là en train d'évoquer les documents qui nous sont transmis, que ce soit d'ailleurs des documents politiques, aussi bien que des documents individuels, des épitaphes, etc., etc. Mais ce n'est qu'un fragment de toutes les personnes de toute leur vie qui ont vécu et dont il ne reste aucune trace. Aujourd'hui, on sait très bien que, contrairement à cette époque où nous avions des traces et il nous reste des traces, mais celles-ci ne représentaient qu'une partie infime des potentiels auteurs, eh bien, aujourd'hui, nous avons tous la possibilité d'être auteurs. Nous avons tous la possibilité d'écrire. Quand je dis auteur, je n'entends pas le terme au sens de grand auteur, d'ajouter quelque chose, d'ajouter une parole. Et il y a une histoire qui a été écrite de cette genèse, au fond, de la parole libérée, de la parole écrite, qui est accompagnée de la parole lue, qui est évidemment accompagnée d'une histoire du sujet. Et cette histoire est récente. C'est une histoire, on sait très bien que dans les régions de France, jusqu'à 1880, l'illettrisme était encore très fort. Aujourd'hui, on voit bien que l'illettrisme, qui existe encore en France, mais est quasiment, enfin, de toute façon, incomparable de ce qu'il était. Et même quand nous parlons des pays qui étaient considérés il y a encore quelques décennies comme étant le tiers-monde, le taux d'illettrisme dans ces pays, je pense notamment à un pays qui ne fait absolument plus partie du tiers-monde qu'est l'Inde, est incomparable avec ce qu'il était même chez nous il y a 100 ans. Donc ce que j'ai voulu faire aussi avec ce texte, ça c'est mon côté historien, c'est donner un petit peu de perspective et se dire, voilà, nous considérons que les choses sont comme elles sont depuis toujours, un peu comme le musée, on pense que le musée est là pour toujours. Mais en réalité, quand on commence à regarder, c'est beaucoup plus récent. Cela étant dit, ce récentisme, ce sort de modernisme, au fond, une sorte de rupture, ne signale pas de ma part une volonté de manifester une nouveauté, mais une radicalisation, parce que les civilisations occidentales écrivaient, je veux dire, mais elles n'écrivaient pas, elles écrivaient sous une forme étatique, sous une forme minime. Il y avait des gens qui écrivaient, la numismatique romaine, il y avait des pièces qui étaient battues à l'effigie des empereurs, mais ce n'était qu'une partie infime. Donc la question, c'est comment ce qui représentait, ce qui était manifesté par l'autorité politique, devient collectif, et en même temps qu'il est collectif, est considéré par chacun comme étant individuel. C'est exactement Facebook, où chacun s'écrit en pensant qu'il est individuel et en s'intégrant dans une forme de collectivité.
C'était important que je vous fasse parler là-dessus, Donatien, parce que c'était pour moi essentiel, quand j'ai trouvé ces éléments au tout début de votre livre, c'est le commencement, le premier chapitre, j'ai trouvé vraiment des éléments qui me semblent être des certitudes, des exactitudes, mais qui sont assez peu prononcées, assez peu proférées en fait, et souvent les journalistes font un contresens à ce sujet. Nous en arrivons au chapitre 2 et au cœur de votre livre. Ce chapitre 2 s'intitule « Philologie dans la vie ». Je vais lire le début. Pour commencer un exercice de philologie nouvelle, où le texte et la vie ne se séparent pas, mais où, contrairement à ce qui a été si souvent imposé, ce n'est pas le texte qui gagne dans cette interprétation, mais la vie, il faut revenir au début du débat, aux origines des mots. Il faut partir du texte pour entrer dans la vie, et partir des premières fois où le terme apparut, et où il donna un sens très différent de ce qu'il devint ensuite. Dans sa fondation pour l'Occident, l'art de lire, de penser et de vivre l'existence comme un texte a été bloqué, arrêté par une ennemie initiale et suprême, la philosophie. Elle est en guerre dès Platon et les sophistes avec les rhéteurs praticiens d'un art du langage utilisé à leur propre fin. Mais une autre guerre a traversé la pensée de l'Occident, celle qui oppose à la philosophie, la philologie, à l'art de vivre, l'art de lire. Elle trouve ses origines dans l'Antiquité et s'est renouvelée pendant la modernité à partir de la fin du XIXe siècle. C'est très très riche, ces deux chapitres. Il y a quasiment tout le corps du livre dans ces deux paragraphes. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé avec Platon. Vous faites un long moment que vous consacrez à Platon. Il s'est passé, il s'est joué là quelque chose de fondamental.
Tout à fait. Platon est, enfin, la fameuse phrase de Whitehead, « Toute la philosophie n'est que des notes de bas de page » à l'œuvre de Platon. Mais ce qu'on sait moins sur Platon, c'est que le terme philologie ou philologia ou l'adjectif philologos apparaissent dès l'œuvre de Platon à 4 reprises, et chaque reprise crée un sens et signale une fluidité du terme que n'a pas philosophia ou philosophos, qui est un terme que Platon fixe, même s'il dira, il dit dans le Théétète, philosophos tekai philologos, c'est-à-dire, si on translittère philosophe et philologue, ou en tout cas si on traduit amoureux de la sagesse et du logos, qui est un terme très compliqué, puisque c'est à la fois le conte, le décompte, la raison, le discours, la plaisanterie aussi, le texte apparaît... un texte mentionne le terme dans ce sens. Et je pense que là, cette fluidité du terme et le fait que à chaque fois il s'agisse d'un sens qui aille de la plaisanterie à la querelle, à la raison, invite à penser la philologie par opposition à la philosophie comme infiniment plus fluide, infiniment plus lié au contexte et aussi infiniment plus moins dogmatique, je dirais. Parce que si Platon fonde le terme de philosophie, il ne fonde pas le terme de philologie. Le terme, les usages du terme sont présents et néanmoins n'ont pas cet aspect très assertif au fond de Platon. C'est pour ça que je voulais commencer, je voulais aussi rappeler que ce terme qu'on n'attribue pas du tout à Platon a aussi partie liée à la philosophie dès ses débuts et que chez Platon, la philosophie et la philologie ne sont pas nécessairement séparées et que par ailleurs, la philologie est, encore une fois, beaucoup plus ancrée dans la vie qu'elle ne l'a été par la suite.
Donc il se passe déjà là quelque chose et par la suite, vous écrivez que la pensée a préféré se dénommer philosophie d'une autre tradition qui a dépassé et remplacé cet art de lire plutôt que philologie. Parlez-nous de cette coupure, de ce qui s'est passé. Pourquoi on a préféré ce terme de philosophie à celui de philologie ?
C'est une très longue histoire. Il y a un livre d'un universitaire américain qui s'appelle James Turner, qui s'appelle « Philologie des origines des humanités modernes ». L'histoire est longue et complexe, juste peut-être en présenter quelques étapes. D'abord, il y a le développement, notamment à partir du 3e siècle, fin du 4e, début du 3e siècle de notre ère à Alexandrie, c'est une culture du commentaire. Et cette culture du commentaire est devenue de plus en plus considérable et elle a elle-même pu se qualifier de philologie parce que le commentaire était évidemment commentaire du texte, donc un rapport au discours et donc un amour de ce discours. Et ça a mené à la fameuse phrase de Sénèque, « Quae philosophia fuit philologia facta est », ce qui était de la philosophie est devenu de la philologie, critiquant les philosophes eux-mêmes qui avaient tendance à être beaucoup trop dans le commentaire. Et ensuite, donc ça c'est une première étape, qui est la naissance d'une culture exégétique et la critique par l'un des plus grands philosophes antiques, Sénèque, de cette culture, dont d'ailleurs Foucault dira qu'il est à l'origine du sujet moderne, de cette culture exégétique, comme étant, au fond, séparée du monde. Ce qui est très intéressant, parce que dans cette notion de séparation, il y a l'idée que lire un texte, ce n'est pas avoir un usage de la vie. La philosophie devient les usages de la vie face à une philologie qui correspond aux usages du texte. Et donc le texte n'est pas la vie. Et on voit déjà là toute une lignée de la tradition moderne. Après, il y a une autre, au fond, une sorte de contrepoint, une sorte de lignée qui me fascine à titre personnel beaucoup, qui est la lignée des grands philologues des 14e, 15e, 16e et jusqu'au 17e siècle. 18e siècle, la philologie commence à s'établir un peu comme discipline. Et cette lignée qui a été un peu oubliée maintenant, enfin qui fascine les spécialistes de la transmission des classiques, mais qui n'est pas tellement connue des autres, c'est celle de toutes ces figures qui découvraient des textes. L'exemple le plus connu, c'est Poggio Bracciolini, le Podge, qui est à la fois le découvreur de la moitié des textes, j'exagère un peu, mais les plus grands Cicéron, le De Natura Rerum, Tacite, Suétone, Plaute, etc. Le découvreur de l'institution oratoire de Quintilien, découvreur de tous ces textes, et en même temps une sorte de diplomate, d'aventurier qui allait d'abbaye en abbaye pour chercher les textes. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est quand on parle de cette... et les éditer. C'est que cette découverte des textes, en fait, on n'a pas sorti des textes de terre. C'était des textes qui étaient là, dans les abbayes, et qui dormaient, en fait. Et qui, à un moment, ont été apportés à la conscience publique. là aussi, avec cette philologie qui s'est quasiment qui a quasiment accompagné la naissance de l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui va permettre à la philologie de prendre tout son élan. Et cette tradition qui mène à d'autres figures, je pense aussi à quelqu'un qui me fascine beaucoup parce que je me suis pas mal intéressé à Néron, c'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme Cardan, qui était à la fois astrologue, médecin, un peu charlatan, qui est considéré comme un des inventeurs de la théorie du hasard et qui en même temps a inventé la critique textuelle puisque c'est lui qui remet en cause les motifs de Tacite et de Suétone au début de son éloge de Néron en 1562, qui est considéré par beaucoup comme un éloge paradoxal mais qui est aussi la naissance d'une méthode. Donc tout ce travail, toutes ces méthodes d'examen du texte n'étaient pas du tout séparées de la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire que l'essor de la philologie comme discipline, ça l'est exactement que critiquait Sénèque, ce qui n'était d'ailleurs aucun véritablement des sens employés par Platon, a absolument jeté dans l'ombre la tradition qui était pour le coup beaucoup plus ancrée dans la vie, qui traitait le texte et la vie, non pas dans une séparation, mais au contraire dans une unité. Et je pense aussi à un moment très important de cette séparation et aussi de cette guerre qu'a menée la philosophie à la philologie. C'est aussi la guerre que la philologie a menée à une certaine forme de philosophie. C'est le texte de Wilamowitz contre Nietzsche au moment de la naissance de la tragédie qui s'appelle « Philologie du futur » où il remet en cause le texte de Nietzsche pour deux raisons. L'une étant qu'il considère que Nietzsche est esclave du jour, quasiment journaliste, et l'autre qui s'en remet à l'intuition, alors que le travail du philologue ne peut pas se permettre l'intuition, il ne peut pas se permettre d'être esclave du jour. Et donc ce refus de l'intuition et ce refus de la prise en compte du présent est aussi une chose qui a beaucoup nuit à la philologie et qui a laissé la place libre à la philosophie, qui pour le coup, elle, ne nie absolument pas son lien avec les usages du monde. Et il y a une dernière étape, dont peut-être on parlera plus tard, qui est la façon dont les grands penseurs des années 1960, 1950 à 1980 et un peu plus, vont refuser ce terme de philologie.
Nous en viendrons justement tout à l'heure dans la suite de l'interview. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière avec le cas du philologue protestant Isaac Casaubon. On est au XVIIe siècle. Je vais vous citer Donatien. Il identifia pour la première fois dans des manuscrits séparés, sous six noms d'auteurs différents, un ensemble cohérent, depuis publié sous le titre d'Histoire Auguste, un des textes les plus riches et les plus inventifs de l'histoire littéraire. On y voit des empereurs poètes, des humains dévorés par les animaux et par eux-mêmes, des géants, des meurtriers, des politiques. De tous ces récits, ils se découvrirent l'unité. Ce faisant, il permit d'ouvrir l'énigme d'un des textes les plus complexes, les plus riches, les plus ambigus de l'histoire littéraire humaine. Pas de distinction entre vie et lecture. Ça, je trouve ça... On est au cœur de ce problème-là. Pas de distinction entre vie et lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire d'Auguste, histoire Auguste ?
Bien sûr. D'abord, une chose sur Casaubon, c'est que Casaubon était donc protestant. Et c'est une figure fascinante parce que c'est d'abord l'éditeur de ce texte dont je vais vous parler dans un instant. Mais c'est aussi... il a été en Angleterre, il a été diplomate. Donc là aussi, on est dans cette lignée des philologues qui sont absolument ancrés dans les usages du monde autant que dans les usages de la matière textuelle, en vérité. Et l'Histoire Auguste est un texte extraordinaire parce que c'est un recueil de biographies qui vont d'Adrien à Carus, donc de 117 à 282 de notre ère. Et ces biographies, qui intègrent des biographies d'usurpateurs, d'ailleurs, dont beaucoup sont probablement inventées, est en quelque sorte projeté sous six noms d'auteurs, Favius Vopiscus, etc., etc. Et chacun de ces auteurs a une biographie, ou en tout cas des fragments de biographie. Il parle, il prend la parole. Mais sauf qu'on pense aujourd'hui que ces six auteurs sont une même personne. Alors cet auteur, dont certains, notamment Jean-Pierre Caluc, un grand spécialiste de l'histoire auguste, a considéré qu'il s'agissait d'un aristocrate païen de la fin du 4e siècle, qui s'appelle, début du 5e, qui s'appelle Nicomaque Flavien. Mais chacun d'entre eux se date à une époque différente. Donc aucun ne date de l'époque de l'écriture. La plupart se datent de la fin du 3e, début du 4e siècle. Et ces auteurs racontent des histoires de tous ces empereurs, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. On peut très difficilement séparer parce que nous n'avons pas de source de comparaison. Et cet auteur donc raconte des histoires extraordinaires, notamment sur les lieux gabales. C'est un texte qui a énormément influencé Artaud, par exemple. Et il invente ou il n'invente pas des récits absolument extraordinaires d'empereurs dont certains, nous le savons, ont existé, d'autres, nous ne le savons pas. Et à l'époque d'Isaac Casaubon et jusqu'à la méthode critique de la fin du 19e siècle, on a cru que tout ce que disait l'histoire auguste était vrai. Et il a vu, et Casaubon a vu, que tous ces textes appartenaient à un même corpus qu'il a appelé les Scriptoriis Historiae Augustae, donc les auteurs de l'histoire auguste. Même si à l'époque de Casaubon, on pensait encore que 90% ou 99% de ce qui était dit était vrai. On a même retrouvé des pièces de monnaie, qui étaient évidemment des faux, à l'effigie d'empereurs mentionnés dans l'histoire auguste. Dernière chose que je dirais sur l'histoire auguste, c'est que c'est le texte où apparaît pour la première fois le concept de mythistoria, de mythistoire. Et l'auteur se moque évidemment avec une ironie quasiment postmoderne, des mythistoriki, ceux qui mélangent les mutoi, donc les récits mythologiques sacrés, et l'histoire, qui pour le coup est sérieuse. Donc on se retrouve avec cet auteur, qui est là en train de nous dire, cet auteur, pour ce texte spécifique, précis, un des six, qui est là en train de nous dire que lui, il est vraiment sérieux, mais qu'il y en a qui ne le sont pas du tout. Une sorte de mise en abîme inversée de son propre acte d'écriture.
Merci beaucoup de toutes ces précisions, parce que ce paragraphe-là, quand je l'ai lu, mais de quoi s'agit-il ? Je l'ignorais complètement, je n'en avais jamais entendu parler, et ça, j'imagine que ça se trouve, enfin, parfait, très bien, future lecture. Alors venons-en maintenant à ce que vous avez énoncé il y a quelques minutes à propos de Barthes, de Foucault et aussi de Derrida, dont les œuvres manifestent un refus de nommer leur acte de lecture philologique. Que se passe-t-il avec Barthes et Foucault, des philologues, mais sans le dire, avec le refus du terme? Vous donnez l'exemple du concept d'archéologie de Foucault, qui est formé dans Les mots et les choses, afin d'établir sa méthode, qui est un art de lire, qui refuse son nom de philologie.
Oui, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, parce que on sait très bien que la pensée structuraliste s'est inspirée de l'anthropologie, elle s'est inspirée de la linguistique, elle a cherché à voir en Saussure son père fondateur, mais aussi bien les premiers anthropologues que les linguistes étaient des gens qui avaient une conscience très forte de ce qu'était l'art de lire, l'art de la philologie. C'est un art qu'ils pratiquaient eux-mêmes en utilisant une matière qui était une matière vivante, une matière qui n'était pas exclusivement textuelle, au sens où on aurait pu considérer que le texte était mort face à une matière qui aurait été vivante, au lieu d'assumer l'inséparation des deux. Et j'ai été très frappé de voir que, j'ai pris ces trois auteurs parce que, voilà, ce sont des cas assez fascinants, parce que on voit bien que Barthes est sans cesse dans le commentaire, que Barthes est sans cesse aussi dans les usages, les commentaires d'objets qu'il analyse, qu'il va creuser, et il va refuser, le terme n'apparaît jamais, hein, ou quasiment jamais dans son œuvre. Derrida, qui aussi, dont toute l'œuvre est un art de lecture, des moindres fragments du mot, notamment en grec. Là aussi, le mot n'apparaît pas. Et enfin, Foucault, c'est probablement le plus frappant, parce qu'on sait très bien que la philologie, c'est aussi un usage du passé, c'est un usage des textes du passé. Et en plus, les derniers textes de l'histoire de la sexualité sont absolument des commentaires de mots très précis et très ancrés dans une tradition philologique. Et on voit bien d'ailleurs avec ce qui a été publié comme le quatrième volume, Les aveux de la chair, on voit bien que ce quatrième volume, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je crois certains Foucaldiens étaient mal à l'aise avec ce texte, parce que on voit les arcanes de la méthode philologique, elle-même informée par des travaux d'autres philologues classiques de Foucault. Et dans tout cela, on a le sentiment que le terme philologie, parce qu'il était devenu démodé, parce que les philologues étaient devenus essentiellement des créatures universitaires qui commentaient la moindre ligne de Virgile sans forcément aller voir ailleurs exactement la critique qu'adressait Sénèque, parce que aussi certains de ces philologues avaient eu la mauvaise grâce de n'être pas exactement du bon côté de l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait très bien que Carcopino, qui était un des plus grands savants des études anciennes, a été le ministre de Vichy qui a proclamé le statut des Juifs. Donc c'était à la fois politiquement pas vraiment du côté du progrès, et aussi la volonté notamment de Foucault d'aller du côté de la philosophie. Il dira toujours l'influence qu'a eu sur lui Nietzsche, qu'a eu sur lui Heidegger, mais pas l'influence au contraire du travail philologique. Eh bien c'était surtout une question d'ambition. Parce que c'était, si on reprend ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que la philologie, ce sont les usages du monde, la philologie, ce sont les usages du texte. Alors, certains d'entre nous pensent que le texte et le monde, c'est à peu près la même chose. Donc, là, pour le coup, la philologie et la philosophie se conjoindraient. Mais à ce moment-là, Foucault, très clairement, s'intéressait beaucoup plus aux usages du monde qu'aux usages du texte.
Et puis arrivent deux auteurs qui ont offert des clés pour repenser une philologie, écrivez-vous, une philologie au présent, c'est Edouard Saïd et Giorgio Agamben. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Vous avez trouvé donc deux textes, un texte pour chacun, qui repense cette question pour une philologie au présent. Et j'imagine que quand vous avez découvert ces deux textes-là, il a dû se passer quelque chose en vous.
Je parle de ces deux textes, mais il n'y a pas que. Il y a les textes de Martin Nussbaum, il y a les textes de Daniel Allen, dont je parle ensuite, de Daniel Mendelssohn, qui sont des textes de personnes qui ont fait un travail philologique. Je pense notamment, je vais revenir à Saïd et Agamben dans un instant, mais je pense notamment aux travaux de Daniel Allen, qui est américaine, qui est une grande théoricienne des droits civiques africaines-américaines, et dont les premiers travaux portent sur les concepts d'écriture chez Platon et les concepts de cité chez Platon. Et évidemment, elle a fait un travail absolument remarquable où elle met en parallèle, où elle se fonde sur ses premières réflexions sur la police, la cité chez Platon, pour ensuite voir comment les questions de communauté, les questions de politique se posent pour les citoyens africains-américains. Bon. Mais on peut aussi prendre l'exemple de Daniel Allen qui travaille sur les rapports de Daniel Mendelssohn, qui travaille sur les rapports familiaux chez Euripide et qui ensuite, dans son œuvre récente intitulée Une Odyssée, va raconter comment il a revécu en quelque sorte, il a revécu le texte, on va dire, avec son père. Donc, là, je parle de livres qui datent d'il y a 4-5 ans, donc les travaux de Agamben et le texte d'Edouard Saïd, qui est un de ses derniers textes, datent d'il y a plus d'une quinzaine d'années. Et donc il y a vraiment une sorte de mouvement d'ensemble. D'ailleurs, pour beaucoup d'héritiers de Foucault, le cas est clair pour Agamben par exemple, vont vraiment se placer dans la perspective d'une sorte d'inséparation du texte et voir comment la lecture des textes, c'est un peu une évidence à dire, mais peut avoir un impact sur notre compréhension du monde, mais non pas selon l'idée classique, au fond, de la séparation. C'est-à-dire, on va dans le texte, on vit dans le texte, et puis après, hop, on va dans la vie. On saute, on va dans la vie. Enfin, au contraire, les traditions philologiques, on fait exactement la même chose dans le rapport au texte qu'on le fait dans le rapport à la vie. Et pour revenir plus spécifiquement sur les deux textes dont vous parlez, l'ensemble de textes pour Giorgio Agamben, parce que Giorgio Agamben a beaucoup écrit sur la philologie, d'ailleurs d'après Benjamin, qui lui-même faisait l'éloge de la philologie, en montrant comment tout ce que Foucault ne disait pas en fait, c'est-à-dire tout ce que les usages du texte nous permettent de comprendre du monde, notamment à travers ce qui est le principe d'un texte, ses structures. Et c'est tout le travail que fait Agamben chez Edouard Said. C'est encore différent parce qu'ils l'ont fait remarquer, notamment après Goethe, que la philologie classique est une manière d'appréhender les textes du monde et donc en fait une contribution essentielle à une pensée multiculturelle. Ce qu'on pourrait considérer comme étant absurde, parce qu'au fond, il y a des philologies, il y a des formes de transmission qu'on pourrait considérer comme philologiques. Au Japon, il y en a dans certaines cultures, indiennes aussi, mais très différemment. Au Japon, vraiment, à certains égards, en Chine. Mais en tout cas, que c'est une création occidentale. Et au contraire, Saïd montre comment on peut, dans ce texte, qui est enfin une conférence, qui est un de ses derniers écrits, qui avait été publié en français dans Le Monde diplomatique, comment on peut ainsi arriver, dans cette lecture intègre d'un texte, à une compréhension qui est politique, qui est culturelle, qui est humaine, et qui n'est pas du tout seulement une question de lettré.
Donatien, est-ce que vous vous considérez comme un philologue ? C'est la question que je me suis posée lisant vos livres, connaissant vos travaux antérieurs, d'autant que vers la fin du livre, vous faites la part belle au curator, c'est-à-dire là on est dans l'art contemporain, à cette personne qui va organiser des expositions en prenant les travaux de différents artistes, en leur donnant un sens nouveau, en les exposant ensemble. Et on peut faire ce rapprochement du curator, donc figure actuelle, figure contemporaine, et le philologue. Et là, ça me fait encore plus penser à vous. Vous l'êtes également, curator. Si dans ce livre-là, dans la bibliothèque de la vie, vous rétablissez ce concept de philologie, j'imaginais que c'était aussi pour vous, c'était aussi une adresse à vous. Vous écriviez une adresse à vous, une ode à... en fait, j'ai envie, moi, Donatien Gros, d'être un philologue plutôt qu'un philosophe parce que ça me correspond mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Je tire un peu le fil un peu loin, mais c'était le fruit de ma réflexion quand j'ai trouvé cette analogie entre le curator et le philologue.
Écoutez, bon, Nietzsche disait que tout livre est autobiographique. Bon, c'est... Pour moi, il y a des parallélismes évidents entre le métier de curator et ce qu'on a considéré comme l'acte de philologie. D'ailleurs, de même que dans la direction artistique et dans l'acte de philologie. Évidemment, j'imagine que les rares professeurs qui ont encore des chaires de philologie probablement pourraient être assez heurtés d'entendre ça. Mais il y a quelque chose de l'étude critique, à la fois de l'immense labeur qui est nécessaire pour arriver à avoir un jugement. Certains philologues au sens classique vont voir une leçon, je pense à Marwan Rached par exemple, qui est à l'École normale, c'est un très grand philologue classique. Il va voir une leçon, il va dire ça c'est pas possible, ça va pas avec le texte, je sais. Et en même temps, en se mettant soi-même, parce que l'autre chose sur laquelle j'ai voulu mettre l'accent, c'est que les philologues ne sont pas des gens qui se perdent, c'est-à-dire qu'ils ne s'absentent pas de l'histoire, comme dirait Hamlet. Et pour la question de savoir si c'est autobiographique, oui, c'est évident. Après, peut-être pas pour le côté curator, qui est une chose qui me... Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être curator. Enfin, quand je fais des expositions, en général, ce qui est important pour moi, c'est de porter la vision de l'artiste, on pourrait dire la vision... on pourrait dire que c'est la vision du texte. Mais donc le métier de curator n'est pas celui, pas forcément celui auquel je m'identifie, même si c'est un phénomène contemporain très important. Et puis, j'ai un peu envie de vous répondre, philologue, je le suis par les diplômes universitaires, parce que étant docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études, bon, ce ne sont pas tellement mes activités d'art contemporain qui font de moi un philologue, c'est l'École pratique des hautes études. Plus sérieusement, je pense que il y a une chose dont je parle à la fin du livre qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai eu la chance et le privilège d'être proche d'Azin Alaïa, le couturier, pendant plusieurs années, et avant qu'il ne nous quitte le 18 novembre 2017. Et j'ai été fasciné de voir comment son travail avait une profondeur, un rapport au tissu du monde, on sait que tissu et texte sont des mots qui ont la même étymologie, qui m'a beaucoup frappé. Parce que au fond, on pourrait opposer deux positions, une position qui serait celle du curator, qui aurait à la fois accumulé toute cette expérience et tout ce savoir, mais qui pourrait être dans une sorte d'immédiateté face à celle du couturier qui est en permanence dans l'immense labeur. Donc au fond, si j'étais véritablement digne d'être philologue, je serais plus couturier que je ne serais curator.
J'aimerais que nous concluions avec ce titre, ce beau titre, Dans la bibliothèque de la vie. On comprend mieux en vous écoutant ce qu'il peut signifier. Néanmoins, j'ai envie que vous accompagniez cette parole de ce titre dans la bibliothèque de la vie afin de conclure notre entretien.
Alors c'est très drôle que vous me posiez cette question parce que j'y ai beaucoup réfléchi à ce titre et puis j'avais plusieurs amis proches qui travaillent au texte comme on dit. Et on s'envoyait, on avait une liste WhatsApp où on s'envoyait des propositions de titres. Je pense qu'il y a dû avoir, entre nous, ils ont eu l'amitié de m'accompagner dans l'écriture de ce texte, dans la réflexion sur le titre. Peut-être 300, 400 titres qui ont été proposés avec des changements de prépositions, des changements de pronoms, des changements d'articles. Enfin, ça, on a été très très créatifs. Puis à un moment, il y a eu, je sais pas si c'est moi d'ailleurs, c'est assez intéressant, ou si quelqu'un ou un de mes amis l'a proposé. Bon, maintenant c'est devenu mon titre, mais il y a eu une sorte d'évidence qui a fait que effectivement c'était ça. Pourquoi ? Parce que ce que je disais au début, ce qui m'intéresse, c'est au moment où nous vivons dans un texte écrit de plus en plus présent, de plus en plus fluide aussi. Au fond, c'est de se poser la question, mais est-ce que le texte ne s'étend pas au-delà du texte écrit ? Est-ce que la bibliothèque n'est pas que celle des livres, même si, grâce à Internet, cette bibliothèque est à la fois immatérielle et omniprésente ? Mais si cette immatérialité n'était pas un moyen pour nous de penser à l'inverse, à la totalité du monde comme un livre et la totalité de la culture ? Parce que je pense que c'est ce terme-là qui est aussi derrière cela. C'est intéressant parce que le terme culture est aujourd'hui employé dans une pensée assez conservatrice. En fait, il faut défendre la culture classique, alors que c'est un terme qui, au moment où il est formé, invite non pas à penser seulement dans une sorte d'enfermement des usages du passé, mais au contraire, dans une compréhension de la totalité du monde. Et ce terme-là est au fond peut-être aussi à revisiter. Parce que la philologie, c'est une compréhension, comme dans beaucoup de traditions, du texte comme monde et du monde comme texte. Alors c'est beau de dire ça comme ça, mais en fait, c'est exactement l'expérience de comprendre ça, c'est exactement celle de vivre dans la bibliothèque de la vie. C'est-à-dire dans une bibliothèque où tous les livres sont présents, si nous en sommes conscients, et où nous vivons un peu comme dans un musée, quand nous promenons dans un musée, au musée d'Orsay par exemple, où nous voyons des portraits de personnes dont pour certains nous savons qui ils sont, pour d'autres pas, et ils sont là avec nous et nous ne nous posons pas la question de leur mort. Ils sont là dans une sorte d'état présent et suggestif qui est exactement celui de cette bibliothèque.
Merci beaucoup, Donatien Gros.